Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Car un matin, ils sont venus, ces Caraïbes d'une autre race, anthropophages à leur façon. Car un matin, ils sont venus par la route salée et les chemins de sable à la recherche de leur dieu, le pur métal aux reflets jaunes. Et ils sont morts, ô mon pays, tes premiers fils au fond des mines pour que les grands aient couche molle et vaisseau bien gréé. Aborigènes des grandes chasses et du pays des abricots, drapés dans la douceur et la fierté de votre race, transmettez-nous votre croyance au paradis sur notre terre. Ces vers sont ceux du grand poète haïtien Anthony Phelps, qui est décédé la semaine dernière à 96 ans. J'aurais pu citer aussi, pour leur rendre un hommage conjoint, des vers de Franck Étienne, autre immense poète haïtien disparu ce mois-ci. C'est décidément une sale période pour la poésie haïtienne. Si j'ai voulu citer cet extrait de son poème emblématique, « Mon pays que voici », un extrait qui, vous l'avez entendu, évoque l'arrivée des conquérants espagnols, c'est bien sûr pour lui rendre hommage, mais aussi parce que je vais continuer cette semaine à parler d'Haïti et parce qu'il sera par moments question de poésie et de littérature. La semaine dernière, je vous ai dit, mais un peu rapidement, presque en passant, que la révolution haïtienne avait profondément nourri la pensée décoloniale, abolitionniste et panafricaniste. On s'était concentré sur le 19e siècle, mais je vous avais dit qu'il y avait une continuité au 20e siècle. Et par ailleurs, j'avais établi un lien, ou plutôt un rapprochement, entre la critique de l'inégalité des races par Anténor Firmin, en 1885, et l'universalisme latéral défendu par Maurice Merleau-Ponty à la fin des années 1950. Et ce sont ces deux fils que j'aimerais nouer dans la séance d'aujourd'hui pour comprendre comment, au cours du XXe siècle, l'héritage de l'universalisme critique, renouvelé par l'expérience haïtienne, a été l'objet de plusieurs réappropriations prises et réappropriations dans de fortes tensions entre un idéal révolutionnaire nourri par l'horizon universaliste du marxisme, d'autre part la spécificité d'une expérience noire irréductible débouchant sur la tentation du relativisme culturel, et enfin l'hypothèse d'un autre universalisme qui ferait droit aux différences sans les essentialiser mais sans les abolir. Alors, pour cela, je vous propose de partir de 1938, date à laquelle l'écrivain antillais Cyril Lionel Robert James, que l'on appelle généralement CLR James, publie un livre essentiel, « Les Jacobins noirs, Toussaint l'ouverture et la révolution de Saint-Domingue ». James était originaire de l'île de Trinidad. Il s'était installé en Angleterre dans les années 1930 et y avait découvert le marxisme, devenant un militant convaincu de la Troisième Internationale. En 1937, il publia d'ailleurs un livre d'obédience trotskiste consacré à la Révolution mondiale, dont l'horizon restait essentiellement européen. Mais en parallèle, il se passionnait pour l'histoire de la Révolution haïtienne, faisant venir des livres de France, séjournant à Paris pour des recherches, et publiant finalement en 1938 ce livre qui allait devenir un grand classique, Black Jacobins, qui fut traduit en 1949 en français par Pierre Naville et continue à être régulièrement réédité. Il est actuellement disponible aux éditions Amsterdam. La lecture de la révolution haïtienne que proposait James insistait beaucoup sur les liens avec la révolution française. Alors, bien sûr, il savait parfaitement que l'insurrection des esclaves en août 1791 trouve ses origines dans les spécificités du système esclavagiste qu'il décrivait longuement. Mais pour lui, le déclencheur, c'était la Révolution française et l'affirmation des nouveaux principes de liberté et d'égalité. Deux passages du livre le montrent très explicitement. Dans le premier, James imagine Toussaint Louverture lisant la Bérénale avant la Révolution et puisant dans l'évocation du Spartacus noir, l'aspiration révolutionnaire qui devait le conduire vers son destin. Dans le second passage, il décrit la réaction des esclaves aux nouvelles venues de France, de la Révolution française. Et il écrit « Ils avaient entendu parler de la Révolution et s'en étaient formés une idée à leur manière. Les esclaves blancs de France s'étaient soulevés, avaient tué leur maître et jouissaient maintenant des fruits de la terre. C'était inexact en fait, mais l'esprit y était, liberté, égalité, fraternité. L'esprit y était. » En anglais, James a écrit « They had code the spirit of the thing ». Hein, the spirit of the thing, l'esprit de la chose. Autrement dit, même si la Révolution française n'a pas immédiatement aboli l'esclavage, l'esprit de la chose était nécessairement abolitionniste et les esclaves domingois l'avaient bien compris. Alors, pour cette raison, certains considèrent parfois, il y a une interprétation souvent acquise de C.L.R. James, selon laquelle il aurait fait de la Révolution haïtienne une sorte de prolongement de la Révolution française et de Toussaint un jacobin des Antilles. Alors en réalité, c'est nettement plus complexe. Il ne s'agit nullement pour lui d'une simple diffusion des idées révolutionnaires vers la Caraïbe, et c'est bien de jacobins noirs que le livre raconte l'histoire héroïque. Il serait donc plus juste, je crois, de parler de branchement, comme le propose Mathieu Renaud, qui a écrit une belle biographie intellectuelle de James. Bien sûr, celui-ci, C.L.R. James, insiste beaucoup, sans doute trop, sur les effets idéologiques, proprement idéologiques de la Révolution française, comme si les idées universelles des Lumières et de la Révolution avaient directement inspiré les esclaves et les avaient directement poussés à agir. Mais en réalité, il est très loin de sous-estimer la spécificité de la situation coloniale et de la question noire. Alors, il est vrai qu'en 1938, le contexte politique et idéologique dans lequel il écrivait était celui du conflit en Europe entre l'horizon du mouvement révolutionnaire et la puissance des totalitarismes, un contexte de violents conflits qui ne pouvait pas laisser l'historien indifférent. Il s'en explique dans la préface du livre, quels que soient ses efforts scientifiques d'analyse et de démonstration, l'historien, dit-il, ne peut pas se prévaloir de la tranquillité, car celle-ci ne s'acquiert qu'au prix, je le cite, d'un abrutissement délibéré de la personnalité. Se tenir à distance de l'action n'est pas un désengagement, c'est tout au contraire une façon d'assumer l'histoire dans laquelle on écrit. Et James ajoutait ceci, c'était dans la quiétude anglaise d'une bourgade de bord de mer que l'on pouvait le mieux entendre, distinct et incessant, le fracas de l'artillerie lourde de Franco, le crépitement des pelotons d'exécution de Staline et la stridence de l'agitation acharnée du mouvement révolutionnaire s'évertuant à développer sa clarté et son influence. Tel est notre temps, et ce livre s'en réclame, lui empruntant un peu de sa fièvre et de ses tourments. L'auteur n'en a aucun regret, c'est l'histoire d'une révolution. Écrit en d'autres circonstances, il eût pu être un livre différent, mais pas forcément meilleur. Présenté en ces termes, donc, je vous rappelle, donc dans la préface de la première édition, le contexte ne semble pas si différent de celui dans lequel Julien Binda, 2 ans plus tôt, en 1936, écrivait sa préface au dictionnaire philosophique de Voltaire, et je vous renvoie à la séance d'il y a 15 jours. Dans les deux cas, le fracas des années 1930, le tragique de l'histoire et la catastrophe imminente avaient pour effet de repolitiser le XVIIIe siècle, que ce soit le combat littéraire des philosophes parisiens, dans un cas, Binda, ou le combat révolutionnaire des esclaves domingois, James. Mais il y avait pour ce dernier aussi un autre contexte, bien sûr, ou il faudrait plutôt dire un deuxième horizon d'écriture, un horizon auquel Binda, vous vous en souvenez peut-être, était totalement aveugle ou indifférent, celui qui se déroulait hors d'Europe. dans le vaste combat des peuples colonisés. Les dernières pages des Jacobins noirs évoquent ouvertement les indépendances futures. Je vais revenir d'ailleurs, remettre l'image des Jacobins noirs. Mais donc, ces dernières pages évoquaient très ouvertement les indépendances à venir qui, disait James, devaient s'inspirer de l'exemple haïtien, même si évidemment en 1938, ces indépendances pouvaient paraître encore très lointaines. Et donc, on perçoit une tension au moment de comprendre la spécificité de la révolution haïtienne entre, chez James lui-même, entre une lecture universaliste et marxiste, d'une part, qu'il inscrit dans la filiation de la Révolution française et dans l'annonce de la Révolution mondiale, et d'autre part, une interprétation qui en fait un moment original dans l'histoire, et même plutôt originel, pardon, dans l'histoire des décolonisations et de la conscience noire. Et cette deuxième lecture va aller grandissante, car dans les années 1940 et les années 1950, James devient un des théoriciens et militant du mouvement panafricaniste, notamment à travers son amitié avec George Padmore, qui fut lui-même un très proche conseiller et ami de Kwame Nkrumah. Entre ces trois hommes se noue une complicité intellectuelle et amicale et politique, et ils ont profondément contribué à politiser la cause panafricaine, comme l'a montré Elikia Mbokolo. Dans la préface à la réédition en 1980 des Jacobins noirs, donc 40 ans, 42 ans après la première édition, James, âgé, est revenu sur l'écriture du livre, affirmant très clairement, je le cite, « Comme on peut s'en apercevoir tout au long du livre, mais surtout dans les dernières pages, je n'ai cessé d'avoir à l'esprit non pas les Antilles, mais l'Afrique. » Il se réjouira de raconter une anecdote sur l'influence que le livre rencontrait auprès des jeunes étudiants noirs sud-africains qui le faisaient circuler clandestinement. Bien sûr, il se peut qu'entre dans ses commentaires une part de reconstruction rétrospective. Après le reflux de l'enthousiasme révolutionnaire, l'émancipation de l'Afrique apparaissait comme le résultat politique le plus tangible, le plus incontestable de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais il est certain que cette préoccupation panafricaine avait toujours nourri la réflexion de C.L.R. James, comme en témoignent les dernières pages de l'édition originale consacrées au parallèle entre la révolution haïtienne advenue et les révolutions africaines à venir, page qui s'achevait par ces mots, ce sont les derniers du livre dans l'édition originale. L'Africain a devant lui une route longue et difficile à parcourir et il a besoin de guide, mais il la parcourra rapidement parce qu'il marchera d'un pas assuré. Entre ces pages, qui terminent l'édition de 1938 et qui annoncent la décolonisation de l'Afrique, et l'édition de 1980, rétrospective, une autre édition était parue entre-temps en 1962, agrémenté d'une nouvelle préface, mais surtout d'un long épilogue, intitulé « De Toussaint l'ouverture à Fidel Castro ». L'enjeu principal ici pour James n'était pas la décolonisation africaine, qui à ce moment-là, on est en 1962, pouvait paraître presque achevée, mais la situation des Antilles. Avec la révolution cubaine, le cœur de la dynamique révolutionnaire semblait revenu dans les Caraïbes, un siècle et demi après la révolution haïtienne. Et James n'était évidemment pas le seul à faire le lien. Le grand écrivain cubain Alejo Carpentier consacra deux livres importants aux révolutions des Caraïbes, dans les Caraïbes à la fin du XVIIIe siècle, Le Royaume de ce monde, en 1949, que j'ai cité l'an dernier, et Le siècle des Lumières, cette même année, qui est publiée cette même année 1962, un roman extraordinaire dont j'espère avoir l'occasion de vous parler plus longuement un autre jour. Le point important pour James est que, tout marxiste qu'il fût, il n'insiste presque pas sur l'idée d'une révolution mondiale dont Cuba aurait pu être la pointe avancée. Non, ce qui lui importe, c'est la particularité de la révolution aux Antilles. James a en tête, au moment où il écrit cet appendice, il a aussi en tête la situation dans son île, à Trinidad, hein, qui s'était révoltée les années précédentes contre la présence d'une base américaine. Cet appendice, de Toussaint l'ouverture à Fidel Castro, cherchait à expliciter le lien entre deux révolutions proprement antillaises, faites par des peuples antillais dans un contexte antillais. Elles sont, dit-il, différentes étapes d'un grand mouvement de fond, la quête d'une identité nationale caribéenne. Car les Antilles, dit-il, ont deux grands points en commun, la plantation sucrière et l'esclavage des Noirs. Et les deux sont fortement liés, constituant un système à la fois social, économique et politique qui a donné à l'histoire des Antilles son caractère particulier. James insiste donc sur le fait qu'au XIXe siècle, une fois estompées les rancœurs de l'indépendance, les Haïtiens, et il faut comprendre en réalité l'élite haïtienne, a été dominée par la fascination pour Paris et la vie intellectuelle. Mais l'occupation américaine de 1915, je rappelle que les États-Unis ont occupé hein, Haïti de 1915 à 1934, eh bien cette occupation américaine a été, pour les Haïtiens, un second traumatisme qui les a obligés à prendre conscience de la nécessité d'un projet et d'une identité nationale propre. Si bien qu'ils ont trouvé, dans leur rapport à l'Afrique, et je vais y revenir dans un instant, dans la spécificité de l'histoire et de la culture noire, dit James, ce ressort identitaire. Autrement dit, dit-il, ils ont inventé la négritude tout en pensant définir la spécificité nationale haïtienne. Voilà ce qu'il écrit. Ce sont les Haïtiens qui ont mis au jour ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de négritude. Idéologie sociale maintenant dominante chez les politiciens et les intellectuels des quatre coins de l'Afrique, sujet de chaudes discussions, est mise au point partout où l'on parle de l'Afrique et des Africains. Or, dans son origine et son développement, la négritude est antillaise et n'aurait pu être qu'antillaise, produit singulier d'une histoire singulière. Et il ajoute, les Haïtiens ne savaient pas qu'il s'agissait de la négritude, cela leur paraissait purement haïtien. Si les Haïtiens, pour James, ont eu besoin de l'Afrique pour penser une culture spécifiquement haïtienne, en retour, c'est depuis les Antilles que la colonisation de l'Afrique a pu être pensée. Si l'émancipation de l'Afrique, écrit James, est un mouvement essentiel de l'histoire contemporaine, les premiers dirigeants de ce mouvement n'étaient pas africains, mais antillais. Et il avait en tête, il donne deux exemples, le Jamaïcain Marcus Garvey, mais surtout son ami George Padmore, originaire comme lui de Trinidad, et que j'ai déjà évoqué. Donc vous voyez, dans ce curieux épilogue, James fait de la révolution haïtienne l'origine d'un mouvement antillais qui a ensuite bouleversé l'histoire africaine et donc l'histoire du monde en permettant aux Africains de prendre conscience de leur aptitude à l'émancipation, puis qui revient aux Antilles à travers la révolution cubaine. Car les Antillais avaient à leur tour besoin de ce détour par l'Afrique pour penser et comprendre leur propre identité. Je le cite encore, « Avant de pouvoir commencer à se concevoir en gens libres et indépendants, il devait se débarrasser l'esprit du stigmate selon lequel tout ce qui était africain était inférieur et avili. La route menant à l'identité nationale passait par l'Afrique. » Fin de la citation. Dans ce récit de cet aller-retour en fait entre Haïti, l'Afrique, puis le retour aux Antilles et à Cuba, eh bien, dans ce récit de James, dans cet appendice, une figure occupe une place importante, presque décisive, c'est la figure d'Aimé Césaire, non pas pour son discours sur le colonialisme, je vais redire un mot, mais qui était paru 7 ans auparavant, mais pour un texte antérieur, qui est le cahier d'un retour au pays natal, publié, vous le savez, en 1939, c'est-à-dire exactement un an après la première édition des Jacobins noirs. Curieusement, James ne cite pas une phrase célèbre du cahier que j'avais lue lors de la première séance en janvier, les plus attentifs s'en souviennent peut-être, dans laquelle Césaire écrit « Haïti, où la négritude s'est mise debout pour la première fois et a dit qu'elle croyait en son humanité ». Non, ce qui intéresse l'auteur des Jacobins noirs ici, c'est moins le rapport spécifique de Césaire à Haïti que son rapport à l'Afrique, à la négritude. C'est le geste d'un écrivain martiniquais qui retourne aux Antilles, décrit la pauvreté, la misère, mais se sent, lui, l'écrivain éduqué à Paris, privé de conscience nationale, submergé, écrit James, par le sentiment du gouffre qui le sépare de ce peuple dans lequel il est né. Fin de la citation, et qui comprend alors que le salut des Antilles passe par l'Afrique. C'est le principe même de la négritude. Celle-ci n'est donc pas une affirmation identitaire racialiste, elle est le renversement du stigmate et l'affirmation depuis la Caraïbe comme réponse à une société post-esclavagiste mais toujours coloniale du lien prioritaire avec la cause de l'émancipation africaine. Et James cite donc, à l'appui de cet argument, plusieurs passages du cahier d'un retour au pays natal, ceux notamment magnifiques dans lesquels Césaire célèbre la négritude et l'oppose au monde blanc, horriblement las de son effort immense. Mais contrairement à de nombreuses lectures qui voient chez Césaire la glorification d'une identité singulière, d'un particularisme, James insiste sur les vers dans lesquels le poète affirme, je cite, vers très célèbre aussi du cahier, donc que James cite, « Aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence et de la force, et il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. » Pour James, il ne fait pas de doute que ceux qui font une lecture raciste ou racialiste du cahier et de la négritude n'y comprennent rien et se perdent dans ce qu'il appelle, j'aime beaucoup l'expression, leur brouhaha d'enthousiasme. Lui, il décerne, au contraire, un universalisme authentique qui se nourrit des racines africaines pour rejoindre une humanité plus concrète, une humanité plus profonde. Alors, si j'ai insisté un peu longuement sur cet appendice, d'abord c'est parce que C.L.R. James est une figure à la fois majeure de l'historiographie de la Révolution haïtienne et une figure importante du panafricanisme, mais c'est aussi parce que très souvent, on oppose, de façon à mon avis paresseuse, mais c'est une sorte de lieu commun, d'opposer James, qui serait un marxiste universaliste, proposant une vision de la révolution haïtienne inscrite dans l'histoire de la révolution universelle, héritière directe de la révolution française, et puis d'autre part, Césaire, penseur de la négritude, critique virulent du colonialisme, inspirateur des théories postcoloniales. En réalité, l'un et l'autre ont cherché à articuler trois dimensions fondamentales. Premièrement, la reconnaissance d'une spécificité historique, celle d'Haïti, mais aussi plus généralement de l'espace antillais, une spécificité marquée durablement par l'histoire de la plantation et de l'esclavage. Deuxièmement, une identité culturelle associée à l'Afrique qui renvoie à un substrat commun que beaucoup, après Césaire, vont appeler négritude, avec toute l'ambiguïté que recouvre le terme, selon qu'on en fait une lecture essentialiste ou culturaliste. Enfin, troisièmement, l'horizon humaniste d'une émancipation universelle, celle où chaque peuple apporte sa propre contribution au rendez-vous commun de l'humanité. Cette position, cet effort permanent pour penser dans leur tension, ces trois éléments, cette position très clairement est celle de James. Mais qu'en est-il exactement de Césaire ? Haïti, vous le savez, occupe une place importante dans son œuvre. Il y a séjourné lui-même 6 mois en 1944, ça l'a bouleversé, et l'île accompagne toujours sa réflexion sur la spécificité du combat des colonisés, tout particulièrement des Antillais. D'abord, dans le très fameux discours sur le colonialisme, en 1955, un texte, soit dit en passant, qui n'a rien perdu de sa puissance et de sa virulence. Je me contente de rappeler ce passage où Césaire reproche à l'humaniste européen chrétien de ne pas reconnaître que les nazis, je le cite, « ont appliqué à l'Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu'ici que les Arabes d'Algérie, les coulis de l'Inde et les nègres d'Afrique ». Fin de la citation. Puis, l'année suivante, en 1956, c'est la grande lettre à Maurice Thorez, lettre de rupture avec le Parti communiste français, et dans laquelle Césaire réaffirme la spécificité du combat colonial, qui n'est pas soluble dans le combat prolétariat français. Rupture politique, mais aussi, et peut-être avant tout, littéraire. Car c'est sur ce plan que se joue la nécessité pour Césaire de trouver une voie propre, de creuser la singularité d'une culture, d'une histoire, de lieu. L'année précédente, en effet, en 1955, la même année du discours sur le colonialisme, Césaire avait écrit une lettre-poème destinée à René de Pestre. Vous les avez tous les deux, donc, mais Césaire à gauche, bien sûr, et puis le jeune René de Pestre, alors jeune poète haïtien dont Césaire avait préfacé un précédent recueil de poésie. De Pestre, je le dis en passant, à ce moment-là, n'avait pas encore 30 ans. Il est toujours vivant. Il a aujourd'hui 98 ans. Il vit depuis 40 ans en France, dans les Corbières. Et je vous invite à lire sa poésie, qui est absolument magnifique. Césaire écrivait à De Pestre, donc cette lettre poème, qui était sous-titrée « Un art poétique », et il lui conseillait très vivement de rompre avec Aragon, de refuser l'injonction de ce dernier, qui voulait un peu régenter, vous savez, la poésie française, à la fois sur un plan poétique et politique, et donc de refuser l'injonction d'Aragon, qui était de se soumettre aux normes de la poétique française classique, et donc de rejeter ce diktat. Césaire enjoignait De Pestre à trouver sa propre forme poétique, à rejeter ce que lui-même appelait le larbinisme, comme le rappelle Romuald Foncoua dans son récit de l'épisode, et donc de marronner la poésie. Une nouvelle figure apparaissait alors, celle de l'esclave en fuite qui refuse l'autorité et la discipline blanche. Césaire évoquait notamment la cérémonie de Bois-Caïman en août 1791, point de départ de la révolution haïtienne, et il invitait De Pestre à une véritable insurrection poétique. Je cite « C'est une nuit de scène, et moi je me souviens comme ivre du chant dément de Boukman accouchant ton pays au forceps de l'orage. De Pestre, vaillant cavalier du tam-tam, est-il vrai que tu doutes de la forêt natale, de nos voix rauques, de nos cœurs qui nous remontent ta mère, de nos yeux de rhum rouge, de nos fruits incendiés? Se peut-il que les pluies de l'exil aient détendu la peau de tambour de ta voix? Laisse-la, De Pestre, laisse-la la gueuserie solennelle d'un air mendier. Laisse-leur le ronron de leur sang à menuer, l'eau fade dégoulinant le long des marches roses. Et pour les grognements des maîtres d'école, assez. Marronnons-les, De Pestre, marronnons-les, comme jadis nous marronnions nos maîtres à fouet. » Il s'agit bien, et Césaire lui-même donne l'exemple, de puiser une langue poétique dans le souvenir de l'insurrection d'Haïti, dans la culture des esclaves marrons et dans le vaudou. Il s'agit de forger une langue à la fois nouvelle et ancienne, une langue de la révolte et de l'insoumission, une langue rétive à tous les pouvoirs, qu'ils soient politiques ou rhétoriques. Et donc, au final, il s'agit d'échapper à la culture francophone des mulâtres, comme les esclaves marrons échappaient autrefois à l'autorité violente des maîtres. J'aurais presque pu appeler cette séance en un clin d'œil au cours que donne ici Wajdi Mouawad, poétique du verbe marronner. Césaire, quelques années plus tard, consacre deux grands textes à la Révolution haïtienne, son Toussaint l'Ouverture, en 1961, dans lequel il affirme que la révolution menée par Toussaint, je le cite, est l'une des sources, l'une des origines de la civilisation moderne. Puis, la tragédie du roi Christophe, en 1963-64, réflexion à la fois empathique, shakespearienne et ironique sur le drame d'Henri Christophe, dans lequel figure comme personnage le baron de Vasté, dont j'ai longuement parlé la semaine dernière, personnage, enfin, baron de Vasté, que Césaire admirait, dont on sait qu'il possédait des ouvrages, il avait acheté dès qu'il pouvait, il achetait des éditions anciennes, et dont il s'est parfois directement inspiré, par exemple dans le discours sur le colonialisme, comme l'a montré Jean Jonassin dans un article publié en 2013 dans Francophonie d'Amérique. À bien des égards, Césaire voit dans la révolution haïtienne le mythe fondateur de la révolte noire, anticoloniale et anti-esclavagiste. Mais dans la tragédie du roi Christophe, sa position est plus complexe, plus ambiguë. Tout en étant très favorable à Christophe, la pièce est loin d'être hagiographique. On peut y voir aussi une critique des tendances autoritaires inhérentes aux pouvoirs post-coloniaux. Césaire a forcément en tête, au moment où il écrit la pièce, la dictature de Duvalier, qui en Haïti même est en train de s'installer, mais aussi les difficultés qui se dressent devant les nouveaux États africains indépendants. Et si vous assistez, je vous y encourage, au colloque de juin sur Haïti, eh bien, il y aura une lecture d'un certain nombre de scènes de la tragédie du roi Christophe, et vous pourrez juger sur pièce de cette représentation de la Révolution. Césaire, d'ailleurs, n'était pas le seul écrivain martiniquais à cette époque à évoquer la Révolution haïtienne au théâtre. Édouard Glissant le fait aussi en 1961 dans sa pièce « Monsieur Toussaint », mais celle-ci cherchait moins à inscrire Toussaint l'Ouverture dans une histoire spécifique qu'à l'ouvrir sur d'autres mondes, d'autres présences, je dirais volontiers d'autres relations, même si Glissant n'élaborera que bien plus tard sa conception de cette notion. La pièce, en effet, se passe dans la cellule du Fort de Joux, où Toussaint l'Ouverture est donc détenu, mais en même temps, cette pièce s'ouvre sur d'autres temps, sur d'autres lieux, comme l'a montré Michael Dash dans un article intitulé « Haïti, première République noire des lettres ». En 1997, donc bien plus tard, dans son traité du Tout-Monde, Glissant réaffirmera ce caractère fondamental de l'histoire d'Haïti, faisant de l'île, je cite, « la terre matrice des Antilles ». Celle, écrivait-il, et je cite encore, « celle qui n'en finit pas d'acquitter l'audace qu'elle eut de concevoir et de faire lever la première nation nègre du monde de la colonisation. » Alors, après James et Césaire, je voudrais suivre un troisième fil, celui du grand anthropologue haïtien Jean Price-Mars, une des grandes figures intellectuelles haïtiennes du XXe siècle. Quand James, dans l'appendice des Jacobins noirs que j'ai cité tout à l'heure, vous vous rappelez, à un moment, je disais il y a 10 minutes, il parlait des Haïtiens qui ont inventé la négritude en cherchant à définir leur identité. Eh bien, la référence qu'il donne immédiatement, c'est évidemment Jean Price-Mars et notamment son grand livre « Ainsi parla l'oncle ». Le livre a été publié en 1928. Il était une réaction à l'humiliation de l'occupation américaine d'Haïti, mais c'était aussi une charge virulente contre la fascination que ressentaient les élites mulâtres haïtiennes pour la culture européenne, et tout particulièrement pour la France, une fascination qui s'accompagnait, selon Price-Mars, d'un rejet de leurs racines africaines, ce que Price-Mars appelait le bovarisme collectif des élites, et notamment des élites mulâtres, c'est-à-dire un désir farouche d'être pris pour autre chose que ce qu'ils étaient en réalité. Contre ce cosmopolitisme imaginaire des élites haïtiennes, Price-Mars proposa une enquête ethnographique du folklore authentique, lui jugé authentique, des masses paysannes haïtiennes plongeant ses racines dans les traditions africaines à travers une analyse passionnante des contes, des pratiques populaires et bien sûr du vaudou. Le livre a eu une influence majeure, non seulement en Haïti, où il a fondé d'abord tout un courant ethnographique, mais surtout tout un courant indigéniste d'études et de valorisation des racines africaines de la culture paysanne haïtienne, mais aussi dans le monde antillais et en Afrique. Léopold Sédar Senghor reconnaîtra volontiers sa dette à plusieurs reprises, voyant dans Price Mars un des fondateurs de la négritude, l'invitant à Dakar en 1960 et prononçant son hommage. Il écrivait ceci, il disait ceci, « Il est des noms qui sonnent comme un manifeste. » Et il racontait qu'après avoir lu « Ainsi parla l'oncle », il dit, après l'avoir lu d'une traite, il dit qu'il l'avait lu comme l'eau à la citerne le soir après une longue étape dans le désert. En France, les analyses de Price Mars résonnaient avec les réflexions de la diaspora antillaise. Lui-même, présent à Paris au début des années 1930, il contribua à la Revue du Monde Noir, fondée par Paulette Nardal en 1931 avec un autre haïtien, le dentiste Léo Sajous. On découvre, et j'en profite pour dire, parce que j'évoque Paulette Nardal, j'en profite pour dire qu'on redécouvre aujourd'hui l'œuvre, l'importance Paulette Nardal dans la genèse de la pensée noire du XXe siècle, notamment grâce aux travaux de Brent Ice Edwards, mais aussi à la publication récente, grâce notamment à Edwards, d'une anthologie des articles de Paulette Nardal dans l'entre-deux-guerres, anthologie parue sous le titre « Penser le monde noir ». Écrire le monde noir, pardon. Son rôle, le rôle de Paulette Nardal, allait bien au-delà du salon qu'elle a tenu avec sa sœur Jeanne à Clamart et qui fut un haut lieu de l'international noir accueillant des écrivains, des penseurs, des artistes. Mais on l'a souvent réduite à ce rôle. En fait, ses propres écrits dans la presse, donc on peut lire dans Écrire le monde noir, eh bien, ses propres écrits témoignent d'un talent littéraire incontestable, mais aussi et peut-être surtout d'une sensibilité très personnelle à l'actualité. Moins radicale que Césaire, Nardal était en revanche très attentive à la spécificité de la situation des femmes noires, antillaises et africaines, auxquelles elle consacre plusieurs textes tout à fait passionnants. Ces articles révèlent aussi le choc que représenta l'agression de l'Italie mussolinienne contre l'Éthiopie et l'importance qu'elle eut dans la prise de conscience au milieu des années 1930 d'une solidarité panafricaine et noire. En Haïti même, l'indigénisme de Price Mars eut une grande influence littéraire. Comme l'a souligné Yannick Lins dans la leçon inaugurale qu'elle a prononcée ici même sur la littérature haïtienne sous le titre « Urgence d'écrire ». Rêve d'habiter. Elle écrit ceci, l'indigénisme n'est point cette exaltation de la culture nationale que son appellation pourrait laisser croire, c'est une tentative novatrice de faire de la littérature un objet expérimental, de se réapproprier d'une façon plus assumée la langue française et d'entendre le nous au-delà du territoire national. Les travaux récents de John Picard Byron consacrés à Price Mars ont aussi contribué à nuancer et à réévaluer l'interprétation de son œuvre en rappelant qu'au début du siècle, Jean Price Mars fut très lié aux élites haïtiennes traditionnelles et que son œuvre ethnographique a toujours été articulée à des ambitions politiques, lui qui fut député, ambassadeur et même candidat à l'élection présidentielle. Price Mars était moins guidé par une réaction nationaliste que par la volonté de trouver dans l'anthropologie les ressources pour construire une nation haïtienne républicaine. Sur le plan historique, la position de Price Mars cherchait là aussi à concilier la spécificité d'Haïti et la leçon universelle de sa révolution. Dans un court essai publié en 1942 sous le titre « La contribution haïtienne à la lutte des Amériques pour les libertés humaines », Il racontait l'histoire d'Haïti depuis l'arrivée de Colomb jusqu'à l'indépendance, et cette histoire se terminait par la naissance d'un pays dont le message était universel. Je cite « Ainsi naquit Haïti, symbole de liberté, de fraternité et d'égalité humaine, symbole du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » La dernière phrase du texte est la suivante. « Haïti est un symbole des revendications de toute une fraction de l'humanité pour intégrer parmi les hommes la défense de ce que les hommes portent en eux de plus haut et de plus noble, l'éminente dignité de la nature humaine. » La dignité humaine, mais celle de tous les hommes, avait été portée par les revendications d'une fraction de l'humanité. L'universalisme n'était pas proclamé sur le plan des principes théoriques, mais dans la réalité, dans l'expérience historique de l'aspiration à l'émancipation, dans le sort particulier réservé à une fraction de l'humanité, en l'occurrence les Noirs. Politiquement, à la fin des années 1950, les effets de l'indigénisme de Price Marsh lui échappèrent lorsqu'ils furent appropriés, déformés, instrumentalisés par François Duvalier et sa politique noiriste, glorifiant justement une authenticité haïtienne, forcément noire, paysanne, hostile à la tradition plus cosmopolite des mulâtres. Dans un texte cinglant, René Depestre, à nouveau lui, il a quelques années de plus, on est en 1968, mena une critique virulente de ce qu'il appelait les aventures de la négritude, qui conduisait, selon lui, à une véritable mystification au profit de la sinistre dictature de Duvalier. Plus généralement, selon Depestre, la négritude, ainsi comprise, devenait totalitaire. Elle avait perdu toute capacité émancipatrice, elle gommait les conflits de classe et la spécificité historique de chaque société au profit d'une représentation mythique de la race noire. Je cite ce texte de René Depestre. C'est là le caractère mystificateur du concept de la négritude quand il nie l'évidence de la lutte des classes et de la diversité des conditions matérielles d'évolution et considère la sensibilité créatrice des peuples noirs comme un bloc culturel homogène et interchangeable dans ses manifestations expressives. Ce texte était en fait le texte d'un discours que René Depestre a prononcé à La Havane en 1968, et donc dans lequel il appelait à dépasser la négritude pour aller vers un autre universalisme, non pas celui de l'individu bourgeois européen, mais celui de la révolution, d'une révolution antillaise et métissée, sociale et non raciale. À certains égards, il retrouvait ici les positions de James, sans le citer, mais il faisait surtout référence, et très explicitement, et jusqu'au titre de son article, hein, vous voyez, Jean Price Marsh et le mythe de l'Orphée noir, ou les aventures de la négritude, eh bien, il faisait référence, évidemment, Orphée noir, à la position défendue par Jean-Paul Sartre dans l'introduction à l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, publiée par Senghor, 20 ans plus tôt, en 1948. Intitulé « Orphée noir », le texte de Sartre avait fait sensation. Il était à la fois un éloge de la négritude, mais aussi un appel à la dépasser dans un mouvement dialectique. Le relire aujourd'hui, ce texte « Orphée noir », je vous encourage à le faire, est une expérience assez saisissante. D'abord parce que les premières pages, absolument splendides, montre que certains des éléments qui paraissent aujourd'hui dangereux, novateurs, provocateurs, étaient parfaitement perçus et décrits il y a 80 ans. Voilà les premières phrases du texte. Qu'est-ce donc, écrit Sartre, que vous espériez quand vous ôtiez le bâillon qui fermait ses bouches noires, qu'elles allaient entonner vos louanges? Ces têtes que nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force, pensiez-vous, quand elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux ? Voici des hommes noirs debout qui nous regardent, et je vous souhaite de ressentir comme moi le saisissement d'être vu, car le blanc a joui 3000 ans du privilège de voir sans qu'on le voie. Il était regard pur, la lumière de ses yeux tirait toute chose de l'ombre natale, la blancheur de sa peau, c'était un regard encore de la lumière condensée. L'homme blanc, blanc parce qu'il était parce qu'il était homme, blanc comme le jour, blanc comme la vérité, blanc comme la vertu, éclairer la création comme une torche, dévoiler l'essence secrète et blanche des êtres. Aujourd'hui, ces hommes noirs nous regardent et notre regard rentre dans nos yeux. Des torches noires, à leur tour, éclairent le monde et nos têtes blanches ne sont plus que de petits lampions balancés par le vent. Mais Sartre, après ce début tonitruant et cette critique du privilège blanc, après de longues et belles analyses consacrées principalement à certains poèmes de Césaire, eh bien Sartre développe ensuite un raisonnement dialectique dans lequel l'affirmation de la négritude ne pouvait être qu'un moment provisoire, l'antithèse négative de l'affirmation de la supériorité blanche en attente d'une synthèse à venir, celle d'une unité de l'humanité dans un monde sans race. La négritude, écrit-il, est un racisme antiraciste, une notion subjective et existentielle, alors que la classe, elle, est une notion objective et universelle. Si bien que la négritude, malgré toute sa générosité, toute sa beauté, n'est qu'un moment négatif d'affirmation d'une expérience particulière, un moment de transition qui, écrit Sartre, n'a pas de suffisance par lui-même. Et il ajoute ainsi, la négritude est pour se détruire, elle est passage et non aboutissement, moyen et non fin dernière. Alors, ce texte de Sartre suscitait à la fois de l'enthousiasme et des réserves. Il apportait la caution du philosophe parisien à la négritude comme geste d'insurrection poétique, mais il fermait en même temps l'interprétation, il en réduisait la portée, il la subordonnait à l'impératif de la révolution socialiste jugée plus universelle. En particulier, un jeune psychiatre martiniquais réagit 4 ans plus tard dans un livre dans lequel il analysait l'expérience vécue des Noirs confrontés au regard de la société européenne. Il empruntait de nombreux outils à l'existentialisme de Sartre, mais s'insurgeait contre la lecture dialectique de la négritude. Ce jeune homme était évidemment Frantz Fanon et le livre « Peau noire, masque blanc » paru en 1952. Il cite dans le texte, il cite un long passage d'Orphée Noir, celui justement que je viens d'évoquer, et il commente « Amer, quand je lus cette page, je sentis qu'on me volait ma dernière chance. Je déclarai à mes amis, la génération des jeunes poètes noirs vient de recevoir un coup qui ne pardonne pas. On avait fait appel à un ami des peuples de couleur, et cet ami n'avait rien trouvé de mieux que de montrer la relativité de leur action. » Au fond, ce que Fanon reprochait à Sartre, c'était d'avoir pris une fois de plus les Noirs de haut, comme un adulte qui dirait à des enfants « Oui, bon, c'est bien, mais tu verras, tu vas grandir », sans comprendre que pour accéder à la conscience de soi, les Noirs avaient besoin de se projeter, mais avaient besoin de ne pas se projeter, c'est ce que dit Fanon, de ne pas se projeter déjà dans une étape suivante de rationalisation et de dépassement, mais au contraire, de creuser la singularité de leur position, de leur histoire, de leur expérience vécue du monde, ou encore, comme l'écrivait Fanon, de se perdre dans la nuit de l'absolu. À l'inverse, avec son discours de surplomb, au nom d'une dialectique hegélienne, Sartre, écrit Fanon, a détruit l'enthousiasme noir. Alors, l'ironie de la chose, l'ironie de l'histoire, peut-être, c'est que Fanon lui-même n'en restera pas à cette étape de la négritude. Dans les années suivantes, son engagement dans la lutte anticoloniale en Algérie le conduit à embrasser la cause de ce qu'il appelle donc la révolution algérienne, adhérant à son tour à un universalisme révolutionnaire, et il demanda d'ailleurs à Sartre une préface pour Les damnés de la terre, qui poussait bien plus loin l'appel à la violence révolutionnaire et qui parut en 1961, l'année même de sa mort. Un autre auteur avait été embarrassé par le texte de Sartre, et bien c'était Senghor lui-même. Face aux reproches de racisme, même antiraciste, attaché à la négritude, Senghor ne cessa de montrer qu'elle devait bien plutôt être conçue comme l'instrument d'un universalisme véritable. Loin de défendre une conception essentialiste ou nativiste de la négritude, à laquelle on l'associe parfois par erreur, Senghor n'a cessé, dans les années 1960, de défendre le dialogue des cultures, comme l'ont montré à la fois Elara Berthaud, Souleymane de Bachir Diagne, ou encore l'exposition organisée il y a 2 ans au Quai Branly sur Senghor et les arts. Ainsi, en 1966, lors de l'inauguration du Festival des arts nègres à Dakar, Senghor affirma que les peuples noirs devaient cultiver leurs propres valeurs, celles de la négritude, non par séparatisme culturel, mais au contraire, je le cite, pour dialoguer avec les autres, pour participer à l'œuvre commune des hommes de conscience et de volonté qui se lèvent de partout par le monde pour apporter des valeurs nouvelles à la symbiose des valeurs complémentaires par quoi se définit la civilisation de l'universel. Avec cette idée d'un universalisme fondé sur l'échange culturel, Senghor semblait s'éloigner des conceptions les plus identitaires de la négritude et retrouver des préoccupations qui étaient celles de l'UNESCO dans ces mêmes années. 5 ans plus tôt, lors de l'admission du Sénégal nouvellement indépendant, il avait son admission à l'UNESCO, Senghor avait tenu le même discours affirmant, je cite, « La civilisation de l'universel, sous peine de n'être pas, sera l'œuvre commune de tous les peuples, races, continents, de toutes les civilisations particulières. » Cette question de l'universalisme était en effet au centre de la politique de l'UNESCO créée en 1945. Elle passait par le rejet absolu du racisme qui était considéré comme la cause des malheurs de la première moitié du XXe siècle et notamment de la Seconde Guerre mondiale. En 1952 fut ainsi adoptée par l'UNESCO une déclaration sur la race qui affirmait que la notion n'avait absolument aucun fondement scientifique et aucune pertinence pour penser la diversité humaine. Mais il restait alors à penser justement cette diversité humaine, c'est-à-dire à articuler la pluralité des cultures dans ce nouveau monde où l'Occident ne pouvait plus se prévaloir de la même supériorité morale, où les décolonisations étaient en marche, ou commençaient à s'affirmer de nouvelles grandes puissances comme la Chine et l'Inde. Alors cela passait par des projets d'histoire universelle, comme les cahiers d'histoire mondiale, dirigés par Lucien Febvre, qui ont été étudiés il y a peu par Gabriela Goldin et Raoul Markowitz. Cela passait aussi par la volonté de créer un canon littéraire universel dont Roger Caillois fut un des maîtres d'œuvre, grâce à sa position à l'UNESCO, où il occupait un poste important, et surtout à son rôle chez Gallimard, où il dirigeait une collection de littérature sud-américaine, La Croix du Sud. La traduction et l'ouverture aux littératures non européennes étaient au cœur de ce projet de créer un corpus, un canon de la littérature mondiale, mais ce projet restait ambigu, parce qu'il avait pris la forme d'un programme de traduction dans plusieurs langues de ce que les représentants de l'UNESCO appelaient les œuvres représentatives de différentes cultures littéraires, et il restait adossé à une vision très hiérarchisée de la littérature, avec un canon universel qui était très largement dominé par la littérature européenne. Alors progressivement, dans les années 1950, ce corpus est ouvert à la littérature non européenne et notamment à la littérature asiatique. Un des résultats de cette évolution, de cette ouverture, de cet élargissement, fut, comme l'a mis en évidence Gisèle Sapiro dans un livre récent, « Qu'est-ce qu'un auteur mondial ?» Eh bien, ce fut le trésor de la poésie universelle, publié en 1950 dans le cadre de ce programme de l'UNESCO par Roger Caillois, mais surtout le maître d'œuvre était Jean-Clarence Lambert. Celui-ci, marqué par les surréalistes et surtout marqué par l'œuvre d'Octavio Paz, procéda à un élargissement du canon mondial de la poésie en intégrant par exemple la poésie précolombienne. Tout en se référant à Hegel, Lambert dépassait le eurocentrisme du philosophe, comme d'ailleurs l'eurocentrisme de Caillois lui-même, en cherchant dans toute poésie un élément transcendant ses conditions locales et donc proprement universel, je cite, intelligible pour tous les autres peuples. Et son idée, c'était qu'il y avait de la poésie, je cite, au fin fond de la forêt africaine, comme à la cour de l'empereur de Chine. Mais néanmoins, l'ambiguïté de cet universalisme culturel, même élargi, persistait. La valeur de ces poèmes tenait-elle à leur dimension universelle, c'est-à-dire au fait qu'elles avaient toutes un élément commun, ou au contraire à ce que chacune avait de spécifique, et en particulier à leurs ancrages dans des langues et des cultures irréductiblement différentes. Il existait en effet une autre approche possible, plus ouvertement ancrée sur l'anthropologie, non seulement ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire des courants attachés à l'authenticité des traditions et des folklores populaires, mais aussi l'anthropologie structurale qui connaissait dans ces mêmes années 1950 un moment fondateur à travers l'œuvre et la figure de Claude Lévi-Strauss. Or, il se trouve que Claude Lévi-Strauss, justement, entretenait avec l'UNESCO des relations compliquées, ambiguës. Alors, bien sûr, en 1952, il avait accepté de publier pour une collection de l'UNESCO un court ouvrage, sous le titre « Race et histoire » à la demande d'Alfred Métraux, qui était ethnologue, qui était fonctionnaire à l'UNESCO et qui lui-même revenait d'un long séjour en Haïti, où il avait notamment été enthousiasmé par sa découverte du vaudou, sur lequel il publia un livre de référence quelques années plus tard. Dans « Race et histoire », il n'est pas spécifiquement question d'Haïti, mais Lévi-Strauss affirmait, ce qui est important, c'est que Lévi-Strauss affirmait à son tour le refus de toute théorie biologique de la race, mais il allait beaucoup plus loin en rejetant toute forme de hiérarchisation des cultures. Il insistait sur la nécessaire préservation de la diversité des sociétés et des cultures, s'opposant à toute forme d'évolutionnisme, mais aussi au danger de l'uniformisation culturelle, dont l'idée même d'une civilisation mondiale était porteuse. Ce refus de toute hiérarchie des civilisations n'était pas partagé par tous au sein de l'UNESCO, et elle lui valut une polémique très dure avec justement Roger Caillois. Ce dernier était attaché à l'idée d'une supériorité irréductible de la culture européenne et il reprochait à Lévi-Strauss d'avoir sombré dans le relativisme. Vous voyez que ce type de débat, c'est pour ça que j'y insiste, on est en 52, 54, vous voyez que c'est des débats qui sont très anciens. Aujourd'hui, on croit les redécouvrir, mais c'est intéressant de revenir à leur origine. Et donc, Caillois publia un long article réparti sur deux numéros de la NRF, fin 54, intitulé « Illusion à rebours », dans lesquels donc, il accusait Lévi-Strauss d'être travaillé par la haine hypocrite de sa propre culture et par ailleurs de se contredire puisque l'Occident, qu'il critiquait, avait justement inventé, disait Caillois, l'esprit scientifique et l'ethnologie. Et Lévi-Strauss lui répondit en 1955, dans les temps modernes, Revue de Sartre, avec mordant dans un article brillant, ironique, intitulé « Diogène couché », en référence au nom de la revue de Caillois, éditée par l'UNESCO, qui s'appelait « Diogène ». L'article commençait d'ailleurs ainsi « Diogène prouvait le mouvement en marchant, Monsieur Roger Caillois se couche pour ne pas le voir ». Et ensuite, tout était à l'avenant, c'était un festival de formules assassines. Surtout, Lévi-Strauss maintenait ses arguments en affirmant l'irréductible spécificité de chaque culture et en s'inquiétant du danger que faisait planer une perspective qui, au nom d'une certaine conception humaniste de l'universel et de la civilisation, risquait d'annihiler les cultures particulières. Il écrivait ainsi, je cite, « L'humanité s'installe dans la monoculture, elle s'apprête à produire la civilisation en masse comme la betterave, son ordinaire ne comportera plus que ce plat. » Aimé Césaire, vous ne serez pas surpris, on est en 1955, Aimé Césaire intervient dans la controverse, dans la deuxième version du discours sur le colonialisme, évidemment du côté de Lévi-Strauss, et surtout en noyant Caillois sous une pluie de sarcasme, insistant sur l'arrogance réactionnaire de sa position. Césaire voyait en Caillois l'état d'esprit de la petite bourgeoisie occidentale, incapable de comprendre, je le cite, que jamais l'Occident, dans le temps même où il se gargarise le plus du mot, n'a été plus éloigné de pouvoir assumer les exigences d'un humanisme vrai, l'humanisme à la mesure du monde. Alors cette controverse, à mes yeux, est d'une grande importance, et pas seulement parce qu'elle a permis, ce qui est le cas, et c'est très important, à Lévi-Strauss de faire une entrée fracassante sur la scène intellectuelle parisienne, comme l'a montré Emmanuel Loyer dans sa biographie, mais parce que 1955, c'est aussi l'année de la conférence de Bandung qui marque l'entrée sur la scène internationale des nouvelles puissances non alignées du Sud, et donc l'entrée dans un monde multipolaire. Il n'est pas anodin qu'il y ait eu lieu alors une polémique intellectuelle sur la question du relativisme culturel qui posait au fond la question de l'universalisme de nouvelles façons. Cet universalisme était-il et devait-il être arrimé, comme le croyait Caillois, à la civilisation occidentale, à ses valeurs, à ses idées, à ses œuvres, ou devait-il au contraire se concevoir comme un équilibre entre l'unité de la nature humaine et la diversité ethnographique de cultures dont la spécificité devait être précieusement préservée. La perspective de Lévi-Strauss ouvrait une voie nouvelle. C'était une perspective que ni l'humanisme de l'UNESCO ni la négritude de Senghor ne pouvaient prendre en compte. Une perspective fondée ni sur le palmarès de la civilisation mondiale, ni sur le dialogue des cultures, mais sur la reconnaissance de la diversité et sur la méthode du comparatisme. Celui qui en a le mieux pris la mesure, dans ces mêmes années, qui en a compris les conséquences, fut Maurice Merleau-Ponty. Dans un texte consacré à l'anthropologie française et tout particulièrement à Lévi-Strauss, rédigé en 1959 à l'occasion de la candidature de Lévi-Strauss au Collège de France, il développa la distinction entre un universalisme de surplomb et un universalisme latéral, distinction que vous m'avez déjà entendu évoquer à plusieurs occasions. Merleau-Ponty, en faisant cela, prolongeait la discussion qu'il avait conduite quelques années auparavant à la rupture avec Sartre et avec la dialectique marxiste. Il ne s'agissait plus de professer une philosophie de l'histoire surplombante, sûre de son bon droit universaliste, mais plutôt de s'attacher à la diversité des cultures humaines, des situations historiques, des attachements particuliers, et donc à la pluralité des chemins vers l'émancipation. L'approche phénoménologique de Merleau-Ponty, notamment sa philosophie tournée vers l'expérience des corps, qui avait beaucoup impressionné le jeune Frantz Fanon, qui avait suivi ses cours, eh bien cette approche, au-delà des questions proprement politiques, le prédisposait à être attentif à la pluralité des façons d'être au monde. Ici, Merleau-Ponty rencontrait l'anthropologie structurale qui lui permettait de rompre avec l'ethnocentrisme surplombant sans pour autant se perdre dans la simple glorification des différences et des singularités. En effet, l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss travaille à partir de la notion de structure, dans un va-et-vient permanent entre la théorie, qui met en lumière des faits anthropologiques universels, et l'ethnographie, qui, elle, est ancrée dans l'expérience concrète des individus et des sociétés, c'est-à-dire des singularités empiriques. Le chercheur est ainsi amené à faire un détour par l'altérité, le terrain des anthropologues, avant de revenir à ce qui lui est familier, riche désormais d'une distance critique et apte à se faire, comme dit Merleau-Ponty, l'ethnographe de sa propre société, grâce à la prise en considération de l'égale dignité des cultures. Ou encore, pour reprendre une formule de Merleau-Ponty que j'aime beaucoup, on pouvait alors chercher l'universel non pas dans le simple dialogue des cultures, encore moins par la réduction à un petit panthéon de la culture mondiale, mais par l'incessante mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi. Et Lévi-Strauss, je le rappelle, voyait en Rousseau le fondateur de cette attitude, de cette démarche à la fois scientifique, éthique et politique, au fondement des sciences de l'homme. Alors bien sûr, la formule de Merleau-Ponty sur l'universalisme latéral était une formule, justement, une proposition, une ouverture, bien davantage qu'une définition stricte ou un programme de recherche. À bien des égards, la formule garde sa part de mystère et elle a été redécouverte par Souleymane Bachirdian. Elle inspire aujourd'hui plusieurs chercheurs qui essayent d'échapper aux oppositions binaires et simplistes entre universalisme et relativisme. Mais il faut reconnaître qu'elle est restée largement, à l'époque, lettre morte. Les années suivantes, elle est au contraire être marquée par la surenchère des perspectives que j'ai évoquées aujourd'hui. D'un côté, la dialectique révolutionnaire, qui voyait le dépassement universaliste des particularités dans la révolution mondiale prolétarienne, au risque de la violence et de l'autoritarisme. Deuxièmement, l'humanisme philosophique classique, qui réaffirmait la supériorité des valeurs occidentales conduisant à la civilisation. Enfin, la radicalisation du culturalisme et des affirmations identitaires, dont Lévi-Strauss lui-même sembla donner l'exemple lorsqu'il prononça en 1971 un second discours à l'UNESCO intitulé « Race et culture », dans lequel il attaquait plus frontalement cette fois le credo de l'institution sur la rencontre et le dialogue des cultures et défendait au contraire le droit de chaque culture à maintenir son existence séparée contre le grand danger que représentait désormais la globalisation marchande et l'uniformisation du monde dans un contexte de pression démographique. Claude Lévi-Strauss, comme l'a montré Stokowski, Victor Stokowski, Claude Lévi-Strauss ne se contentait pas d'affirmer la méthode ou les résultats de l'anthropologie, il révélait une conception du monde, une véritable cosmologie, republiée en 1983 dans Le regard éloigné. Le texte surprit les lecteurs et suscita, selon les termes de l'anthropologue lui-même, un joli petit scandale. Les temps, il est vrai, avaient changé. Le contexte, notamment en France, était devenu bien différent. Et c'est ce contexte, celui des années 1980, sur lesquels nous arrêterons la semaine prochaine, dans ce qui sera la dernière séance de cette série de cours. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.